Couture dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier. Le Dé de Misère.
Radio X.
Ouais, ben dans cette campagne électorale-là, il y en a qui se font ramasser solides. Il y a des candidats, dont notre ami Gary Epi. Et là, Gary Epi a décidé de passer à l'offensive. Là, vous avez vu aussi, il y aurait une candidate y a de la CAQ, Geneviève Peterson.
Oui.
Dans certains de ses écrits, le mot « squat » serait revenu à plusieurs reprises.
Oui, oui.
Non, mais ça, je vous disais, là, c'est parce que là, vous avez tiré de la boîte à Gary parce qu'il avait utilisé le mot « squat » dans une description que sa mère faisait des femmes autochtones. À l'époque, elle était sage-femme à Gaspésie, je ne sais pas quelle année. Là.
Elle a écrit dans « La déesse des mouches à feu », son livre publié en 2014, une gang de squats pleine de spray net qui débarquait d'une minoune. Et elle ajoute « On a su après que les squats, c'était juste des gurdas, des guidounes de Chicoutimi Nord. »
Là, t'as quand même Fréchette qui demandait la démission de Gary à cause de ça, Duranceau.
Ouais.
Je pense qu'il y a aussi une ministre autochtone dans le gouvernement de la CAQ qui a demandé.
Ouais, ouais, ouais.
Là, à un moment donné, allez-vous demander des excuses à votre propre candidate? Là, à un moment donné...
Ben, c'est du niaisage.
Ben oui, c'est du niaisage. Mais ils veulent tirer de la boîte à du monde. Ben après ça, ils s'aperçoivent qu'ils jouent dans un jeu. Puis en plus, ils nourrissent les médias. Il y a des médias qui ont joué ce gros, là. L'histoire de la squaw, là.
Oui, mais c'est sûr. Quand tu veux être plus catholique que le pape...
Tu vas avoir le même traitement de faveur au niveau médiatique pour Geneviève Peterson, qui était dans la gang de Québécois à l'époque, puis que son chum travaillait à Radio-Canada. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là...
Non, oh, écoute, moi, je... On est dans le niaisage.
Dans le gros niaisage.
Ça continue. Doom Dumas aussi, là, qu'on ressort des affaires un matin.
Mongol.
Il était pas fin avec la gestion de l'offre. Il était payé de donner son opinion en arrêt d'un micro. Il en a dit des affaires.
Ben oui, c'est sûr. Puis à un moment donné, le bandit, là, qu'est-ce qu'il pense de ça, il va te le dire. Tu sais, je veux dire, là, au moment, là actuellement, là, on peut penser quelque chose de 6 mois puis changer d'idée aujourd'hui. Là. Mais là, il te ramène ça, puis il te beurre ça, puis il met ça gros, puis... Voilà, on est là-dedans, on est dans un air comme ça, là, de médias sociaux aussi. T'as pas le contexte, t'as rien.
Mais non, c'est ça.
On y va, y es-tu là, notre gars?
Yes.
Jordan, comment ça va?
Ça va très bien, et vous, M. Couture?
Ben oui, ça va. Écoute, le sport... Le Canadien, là, il y a Kirill Marchenko qui pourrait s'amener. Est-ce qu'il va s'amener? Lui, il veut être échangé. Il veut quitter Columbus. Il pourrait se ramasser avec le Canadien.
Mais Don Waddell, qui est DG des Jackets, l'a dit une couple de fois durant la saison morte, qu'il ne voulait rien savoir d'échanger ce gars-là. Mais c'est toujours pareil à Columbus. Tu sais, souviens-toi, à une certaine époque, on avait un Artemi Panarin qui était là. On pensait le garder à long terme, Sergei Bobrovsky. Et tous ces beaux gars-là sont partis. J'ai l'impression que ça va être le cas pour Marchenko éventuellement. Mais là, le problème, Peter, c'est le prêt à payer. Est-ce que tu es prêt à donner un gars comme Michael Age ou un David Rimbacker un espoir plan A, de premier plan pour l'avenir du Canadien? J'ai l'impression que c'est ça qui achoppe un peu d'indiscussion avec le camp Waddell des Jackets et celui de Kent Hughes et de Jeff Gordon. Parce que oui, t'as bien beau de vouloir te payer un gars qui va jouer sur ton top 6. Mais tu sais, si tu veux éventuellement, je sais pas, moi, on parlait souvent de McDavid des derniers mois. C'est un gars de même qui est disponible, tu veux te payer la totale pour aller chercher un gars comme ça, fait que tu as perdu des munitions pour aller chercher Marchenko. C'est peut-être pour ça qu'on aime mieux attendre dans le cas du Canadien. J'ai l'impression qu'on veut vraiment respecter le plan à la lettre. Moi, honnêtement, j'aurais pas de trouble à donner Michael Hage pour un gars comme Marchenko qui apporterait tellement au top 6 du Canadien. T'sais, côté robustesse, on a vraiment besoin de ça. Puis en plus, c'est un Russe, serait bien chum avec Ivan Demidov. Tu le mets sur le deuxième trio. Je pense qu'il y a un fit plus que naturel. Mais je sais pas, on dirait qu'on n'est pas prêt. Ah, Age, on l'aime bien, tu sais, son père trippait sur le Canadien, puis il y a comme quelque chose de spécial avec Age. J'ai l'impression que Rimbacker n'est pas nécessairement le gars visé dans cette discussion-là. Mais ça va être de voir, parce qu'on sait que Kent Hughes a toujours fait des bonnes transactions depuis qu'il est arrivé avec le Canadien.
Ouais.
Est-ce qu'on va avoir un bon deal en retour, tu sais? C'est parce qu'il y a aussi des bons timings pour aller chercher des gars comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, on va vouloir s'en débarrasser le plus vite possible avant le début de la saison? Et là, le prix va baisser. C'est peut-être ce qu'on évalue du côté de Kent Hughes.
Lui, il fait la grève, là. Hein? Il veut pas venir jouer. Il veut pas se rapporter à Columbus.
Ben, eux autres mentionnent qu'il va débuter le camp là-bas puis que tout va être beau, tout va être parfait. Mais là, de ce qu'on entend, tu sais, l'agent qui sort des tweets ici et là, à un moment donné, ça continue de même, ça va peut-être mal finir. Fait que c'est le temps de se montrer intéressé puis de peut-être vouloir bâtir quelque chose. Moi, j'essaierais absolument. Là, tu sais, c'est un gars de 6 et 3 Il est 200 livres, il a 26 ans. Fait qu'on est un peu dans le même barème que celui de Noah Dobson, qu'on a été chercher aussi à 26 ans l'année passée. Tu sais, qui fit pour le long terme, parce que j'aimerais bien ça te dire, hey, Crosby, Malkin, c'est un gars qui pourrait être intéressant pour le leadership, gagner des Coupes Stanley. Fine, mais ces gars-là, 37, 38, 39 ans, ils vont te donner une, deux bonnes années du Canadien. Puis la fenêtre réelle pour gagner une Coupe à Montréal, ce ne sera pas elle, cette année, c'est peut-être plus l'année prochaine et l'autre est en montant. Là. Mais il faut aller chercher des gars qui, dans ce prime-là, vont être capables d'être à leur apogée également.
Mais on dirait qu'on a peur de faire un faux pas. T'sais. On dirait qu'on a peur de... Parce que là, pour l'instant, le consensus, c'est un peu dire à Ken Hughes, Gorton, ils signent des bons joueurs. Pas cher, on compare avec Makar puis les autres, on les paye pas cher. Mais là, si on fait un genre de faux move ou qu'on va faire une transaction qui finalement ressemble un peu à Drouin contre Sergachev, là, on a peur de se le faire ornoter.
Ouais,
ça, on dirait que ça confine à on bouge pas, on attend puis on joue à trappe.
Ouais, c'est bien beau dire, on a signé un bon deal. T'sais, Ivan Demidov, cette année, c'était un méchant bon contrat là, à 9,1 millions de dollars. Tilly Notson à 8,885. C'est des contrats exceptionnels, mais il faut penser que ce ne sera pas éternel non plus.
Non.
Si je regarde ça, le contrat de Suzuki termine en 2029-2030 à 7,8, puis il ne demandera pas 8,2 quand il va signer son contrat.
Ben, il va être à 17, points, il va être à 15, 16, 17 ben. Millions. Là.
Et si Makar est à 20,4, il va être à 18-19, parce que là, on se reparle dans 4-5 ans.
Ouais,
là, ça
va
peut-être être beaucoup plus d'argent que ça. Fait que tu sais, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Oui, tu as des bons deals que tu as faits, mais en même temps, c'est à toi d'opérer. Puis j'entendais Georges Larac dire là, qu'il y avait un été incroyable qui a été ouf. Oui, le deal de Demidov, c'est fou, mais on veut voir autre chose se produire. T'sais, je me souviens l'année passée, je te parlais de Noah Dobson, quand ils ont été chercher, on avait vu après ça des trucs là, dans la série Crave avec Suzuki et Caulfield. Quand ils ont appris la nouvelle de l'acquisition de Dobson, ils capotaient, les gars. Puis là, tu as donné une méchante raide de chance. Tu t'es rendu en finale de l'Est contre les Hurricanes avec ce club-là. Mais là, ce serait à la direction. Je te dis pas d'ajouter trois gars de plus dans ton alignement, mais on sait, puis les gars le savent pertinemment dans l'alignement du Canadien, qu'il manque un gars à l'aile. Peut-être un bon deuxième centre aussi, ce serait une bonne priorité. Peut-être un défenseur droitier aussi. Fait que tu sais, ça prend des munitions de plus. Puis côté masse salariale, ce serait à partir de cette année qu'il faudra en profiter, parce qu'après ça, ça va peut-être être plus difficile de bâtir quelque chose, parce qu'il faut penser que d'autres contrats, si tu veux garder Edge, vont arriver. Il va falloir que ça va être un peu plus mathématique de gérer ta masse salariale versus présentement où tu as un peu plus de malléabilité.
Non, puis c'est quatre bons trios. Là. Tu regardes les Hurricanes de la Caroline, les autres, c'est quatre trios loadés, 1, 2, 3, 4. Les défenseurs sont allés en chercher aussi, puis des goalers, des très bons gardiens. Le Canadien est bien positionné, mais comme tu dis, peut-être encore un an ou deux avant d'avoir peut-être la force là, à 100%, là, t'sais, être plein.
Ce serait le temps, je crois, d'essayer quelque chose, surtout avant le camp d'entraînement, de passer un message aux 7 des partisans. Je te dis pas de surpayer 2-3 gars, mais juste d'apporter quelqu'un sur ton top 6 comme Marchenko. Parce qu'on sait qu'il y avait des gars disponibles à un moment donné. Je pense à Jack Hughes, je pense à Robert Thomas du côté des Blues. C'était des gars qui étaient sur le marché, étaient sur la vitrine les derniers mois. Mais là, ils sont plus là. On ne peut pas aller chercher ces joueurs de centre-là.
Exact.
Les Blues, les Devils ne veulent rien savoir des échanger. C'est Nico Hischier, excuse, qui a signé une prolongation de contrat avec Jersey. Fait que ces gars-là sont plus disponibles. Là, tu as un gars à l'aile qui est dispo. C'est un joueur de centre qui arrive durant la saison, mais là, tu vas peut-être pouvoir tenter une transaction. Mais je sauterais sur l'occasion parce que ça passera peut-être pas 2-3 fois, cette histoire-là. Puis là, à un moment donné, si tu te projettes dans une couple de mois, il va peut-être être rendu trop tard pour aller chercher des gars qui auront déjà été échangés, puis tu avais des fenêtres pour aller chercher.
Bon, Cal Makar, 20,4 millions par année. Là, ça donne Quinn Hughes. Lui, il vaut combien, là?
Ben là, Quinn Hughes, Bill Guérin, moi et lui, je commencerais à faire des petits pipis nerveux. Là. Il est temps qu'il signe son contrat. On se souvient de Kirill Kaprizov qui a signé dans les derniers mois à 17 millions par année.
Ouais.
On capotait. Voyons, c'est quoi ce contrat-là? C'est hors la loi ou hors la norme ou presque, parce que McDavid avait signé dans ces mêmes eaux-là un 12,5 deux ans. Mais là, on voit ce qui arrive. Là. L'effet Leo Carson, l'offre style, ça n'arrête pas d'exploser. Le dernier gros contrat, c'était Maclean Celebrini qui s'était prolongé avec les Sharks pour 5 ans, 18,8. Là, Makar, lui, reste à long terme avec 20,4 millions. Mais là, le Wild du Minnesota, ils ont payé extrêmement cher aux Canucks de Vancouver pour aller chercher un gars comme Quinn Hughes. Et là, ben, c'est sa dernière année de contrat. Puis, tu sais, on entend que, oui, il veut signer, il aimerait ça. Ouais, mais il va falloir opérer, là, surtout avant le début de la saison. Le prix que tu as payé.
Ben, c'est un 20 millions. Non, d'après moi, en bas de 20 millions, il ne signe pas. Là, lui, il va rester un an. Fait, ils ne veulent pas le perdre non plus. Il n'y a pas le choix. Puis, on dit qu'on attendait la signature de Makar pour essayer de voir la valeur potentielle de Hughes.
Il aurait peut-être pu le signer à 18-19. Il n'aura peut-être pas le choix de le signer à 21. Là. Quinn Hughes va vouloir plus. Puis, j'entendais des chroniqueurs dire « Ouais, mais c'est pas nécessairement une affaire de cash. Ils veulent gagner. » Je dis « Ouais, mais excuse-moi, mais depuis les 2-3 mois, on n'arrête pas d'entendre des « Ah, record de contrat dans la Ligue nationale. Ouais. » Là, c'était Carson, Celebrini. Là, c'est Makar. Assurément que Quinn Hughes va vouloir le plus de cash possible sur la table.
Ben oui.
Puis là, ben, le problème du Wild va être le suivant. C'est pas avoir deux gars à presque 40 millions pour ta masse salariale. T'sais, il faut être réaliste. Signera pas à Kings. Il va signer probablement à 20, 20.2, 20.4, peut-être un peu plus que Makar. C'est sûr que Makar a une Coupe Stanley, pas lui. Mais on peut comparer le talent. Fait que ça va coûter extrêmement cher à Guérin, mais tu peux pas perdre ce gars-là parce que si tu le perds, tes prochaines années vont être extrêmement difficiles au Minnesota avec le prix que tu as payé en retour dans la dernière année.
Voilà, mais là, tu as Cutter Gauthier aussi, tu as Fantilli. Comment ils valent ces gars-là?
Bien là, Gauthier, c'est un autre problème. Là. Je te parlais de Leo Carson qui a signé à 18 millions. Là. Les enchères ont monté. Puis les Ducks, ils ont une couple de vétérans. Je pense à Chris Kreider, je pense à Michael Granlund. C'est des gars qui se sont greffés à l'organisation dans les dernières années. On a signé ces gars-là pour apporter un peu de leadership, d'expérience dans l'alignement, vu que les Ducks étaient très, très jeunes. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'avec le contrat de Leo Carson à 18 millions, évidemment, c'est une offre hostile de Daniel Brière, mais c'est venu tout bousiller les plans des Ducks, parce que j'imagine que le DG d'Anaheim voyait un Carson, on va dire, à, je sais pas, 12, 13 millions maximum. Là, c'est 5 millions de plus. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que c'est l'effet d'enchaînement. Là. Quand un Gauthier, il ne voudra pas 8, il ne voudra pas 10, il va vouloir
15.
De ce qu'on entend, il va vouloir au moins 15. Au moins 15, c'est pas 16. Là, tu te ramasses avec deux gars à 30 millions. Mais là, il faut que tu échanges soit Granlund, il faut que tu échanges peut-être un Vatrano ou sinon encore un Chris Kreider. Puis en raison justement des signatures de contrats qui ont coûté extrêmement cher, défensivement parlant, les Ducks, c'est pas la même équipe pantoute. Je pense qu'ils ne feront même pas les séries juste en raison de leur mauvaise défensive. Ils ne sont pas capables de signer vu qu'ils n'ont plus d'argent. Puis là, ben, t'as Gauthier qui veut un 5-6 millions de plus. Fait que vraiment, ça va venir déstabiliser la masse salariale d'Anaheim. Ça va coûter extrêmement cher. Puis Fantilli aussi,
ben oui.
C'est un autre joueur qui est avec Columbus. Va-tu demander un 15-16? Fait que c'est vraiment un effet, là, je dirais, l'effet inflationniste dans la ligue. Tout monte en malade. Mais Fantilli va peut-être avoir un 15-16 millions aussi.
Là. Mais là, maintenant, il y en a un qui va se planter. Une équipe qui va se planter avec un de ces contrats-là. Ça on va revoir un truc à la contrat de Rick DiPietro ou Alexis Yashin. Tu sais, parce que t'en as plein des joueurs qui étaient des super prospects. Tu sais, rappelle-toi, il y a un gars, je me rappelais plus de son nom, mais je l'ai retrouvé. Rappelle-toi des Sharks quand ils avaient repêché au premier round, 8e overall, Devin Setoguchi. Hey, lui, il devait. brûler la ligue. Il avait scoré 31 buts à sa première saison complète. Puis finalement, ça a fait patate après. Mais là, il y en a là-dedans que. Ça se peut que ça arrive. Il y en a des gens de One-Hit Wonder de même, là, que, ils font une ou deux saisons exceptionnelles, puis après, ça s'effoire. Pense à Semin, entre autres.
Imagine,
il y en a eu plein. Là.
À 15 millions, 16 millions, puis tu fais patate. Là t'es pogné avec un contrat de 8 ans à 15, 16 millions. Ben oui, ça peut arriver, effectivement.
Ah non, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça va être de prévoir. Puis, tu sais, surtout, je pense que les contrats de transition vont être de plus en plus à la mode. Là, on a Celebrity qui a signé 5 ans, mais j'ai l'impression que des fois, on ne testera pas de se rendre jusqu'aux 8 ans. Tu sais, je comprends, Celebrini, c'est un talent, la Crosby, on est dans ces eaux-là. De le signer à long terme, c'est la meilleure affaire. Mais un gars, justement, qui sort 8, 10, 12e, tu ne le signes pas 8 ans s'il veut un gros contrat, tu le signes 2-3 ans pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, à un moment donné, quand tu es rendu à 30, 40, 50 millions pour 2-3 joueurs dans ton alignement, je comprends là, que ta masse salariale va monter à 114 millions, mais c'est de proportionner ça ailleurs. Tu veux une bonne profondeur, tu veux un bon goaler, une bonne défense, mais ça va te prendre quand même un bon alignement. Je pense à Colorado, là, avec la signature de contrat de McKinnon qui va venir éventuellement. Il va demander combien? Il va te demander 22 millions. Tu as deux gars pour 44 millions. T'sais, l'Avalanche, leur fenêtre d'opportunité, c'est pas mal cette année. Là, parce qu'après ça, tu as signé Natchez à 11 millions. Tu as d'autres gars qui vont monter. Le salaire de Kadri, c'est sûr qu'il n'est pas trop cher, mais d'entourer l'Avalanche, la profondeur va en manger une claque, même la profondeur en défense, peut-être même des buts. Fait que c'est le temps d'en profiter parce qu'après ça, t'es condamné pour une couple d'années. Là.
Bon, Remparts ce soir. Les Remparts ont quand même une très bonne équipe cette année, de ce que tu vois.
Bon, on est en montée du côté des Remparts. Là. C'est pas le club que tu as vu en 2023 là, qui a gagné la triple couronne. Puis, je veux dire, on était vraiment au prime de la formation. On avait été chercher, souviens-toi, un Zach Bolduc de Rimouski qui là, était rendu avec une certaine expérience, Théo Rochette et tout ça.
Ouais.
On a encore une couple de vétérans qui vont être dans l'alignement. Puis ça va être bien intéressant d'y suivre. Puis, on va voir une belle progression probablement qui vont être proches du 5-6e rang dans la Ligue cette année. Puis là, on va viser la prochaine année, peut-être l'autre, pour se rendre jusqu'au bout, parce qu'on veut la Coupe Memorial en 2028. Mais non, ils vont être intéressants à suivre. J'imagine qu'un 2-3 rondes de série, ça va être possible cette année. De Patrick Deniger également, qui est excellent devant le filet. Fait que non, on va avoir une année excitante à Québec. En plus, c'est le 30e anniversaire. On va avoir plein d'événements spéciaux cette année. Il ne faut pas manquer ça.
Et capitaine, on a parlé à Charles Demers plus tôt dans le show, puis il nous disait que ce soir, en tout cas, un record de concessions possible là, pour,
ben oui.
Au nombre de spectateurs. Année après année, capitaine, les autres, ça, ils battent des records, là.
Ah oui, c'est des records non seulement d'assistance. C'est complètement fou ce qu'on vit au Stade Canac, mais là, on a 67 victoires cette saison. On a égalisé notre nombre de victoires, meilleur nombre de victoires dans l'histoire de l'équipe. Fait qu'on pourrait écrire l'histoire contre les Jackals du New Jersey. Puis c'est un club même qu'on pourrait affronter dans les séries. Ça va être le fun parce que c'est la dernière série officiellement à Québec au Stade Canac pour la
ouais,
saison.
C'est ça, ouais.
Après ça, on finit ça du côté de New York et ça va être les séries. Fait que ça se pourrait que ces deux clubs-là, justement, on les affronte là, durant le parcours pour se rendre en finale et peut-être même toucher au trophée pour une autre année. Mais non, c'est une très, très belle fin de saison. Manquez pas ça, l'ambiance est complètement folle. On dirait plus ça avance, plus il y a de la frénésie dans l'air au Stade Canac.
Voilà. Merci, Jordan. On te laisse aller. Et nous autres, après la pause, c'est quoi? C'est l'économie, la bourse. Il y en a un auditeur qui dit, c'est quoi qui se passe? C'est dans le rouge. Ben oui, c'est dans le rouge. C'est le mois de septembre. On revient.
Yes.
Culture dans le mid. Radio X.